sur Canal Sud 92.2. Ce sont les vagabondages radiophoniques. Une émission tirée de la web radio du Chiffon Rouge, des bulles dans le bocal. Une émission sur l'état d'urgence et ses conséquences, avec comme invité Pascal Nakache, membre du comité central de la Ligue des droits de l'homme de la section de Toulouse.
Chers amis auditeurs des Bulles dans le Bocal, bonjour. Aujourd'hui, notre émission mensuelle qui a un invité, pardon, c'est Pascal Nakache, qui est le président d'honneur de la section de Toulouse de la Ligue des droits de l'homme et qui est membre du comité central de la Ligue des droits de l'homme. On est reçu par Pascal Nakache pour aborder les questions relatives à l'état d'urgence. Bonjour Pascal.
Bonjour.
Voilà, première question, on va se tutoyer.
Avec plaisir.
Première question. Les libertés démocratiques sont bien malmenées depuis quelque temps. Depuis les deux dernières élections présidentielles, un certain nombre de lois liberticides ont été votées. La situation s'est aggravée depuis les attentats de Charlie Hebdo et du Bataclan. L'instauration de l'état d'urgence au Conseil des ministres du 15 novembre 2015 est prolongée jusqu'au 27 juillet 2016. La loi Urvoas aggrave sur différents points cette loi. Une prise de position pour nous, c'est définitivement non, contre ces dérives a été lancée par la Ligue des droits de l'homme et contresignée par un grand nombre d'associations laïques et démocratiques, dont la Fédération nationale de la libre pensée. Peux-tu, Pascal, faire le point sur la situation actuelle ?
Alors la situation actuelle du point de vue de l'état d'urgence, d'abord ce sont des chiffres. Les chiffres que nous connaissons, c'est qu'il y a eu à peu près 4000 perquisitions ordonnées dans le cadre de l'état d'urgence et environ 400 assignation à résidence. Et il y a un autre chiffre qui est intéressant, même s'il reste pour une partie inconnue, c'est celui des infractions de terrorisme, effectivement, si ce n'est élucidé, en tout cas mis en évidence à l'occasion de ces perquisitions et assignations à résidence. Et là, on est sur un chiffre qui est environ de l'ordre de 4 infractions. Donc ça donne une idée de l'efficacité du dispositif de l'état d'urgence pour l'objectif qui est censé être le sien, selon la loi, à savoir justement lutter contre le terrorisme. En réalité, la Ligue des droits de l'homme s'est opposée, non pas d'ailleurs à l'instauration de l'état d'urgence, parce qu'il faut bien admettre qu'à un moment donné où une menace très violente pèse sur la France pendant une brève durée, il est compréhensible que des mesures exceptionnelles soient mises en œuvre. En revanche, nous nous sommes opposés dès le départ à la prolongation de l'état d'urgence parce que, s'agissant de la lutte contre le terrorisme, c'est un dispositif qui suppose surtout des moyens sur le long terme, au niveau des services de renseignement en particulier, d'investigation, etc. Et ça n'est pas quelque chose qui passe par le fait d'aller interpeller comme ça des individus à droite à gauche ou multiplier des assignations à résidence ou perquisition. Donc nous pointions à la fois l'inefficacité du dispositif de l'état d'urgence au regard de l'objectif proclamé de lutte contre le terrorisme et en contrepartie l'atteinte majeure aux libertés publiques pour l'ensemble des citoyens. La difficulté que nous avons de ce point de vue-là, c'est que de très nombreux citoyens n'ont jamais eu affaire, en réalité, dans leur situation personnelle, aux mesures de l'état d'urgence. Ils ont le sentiment qu'en réalité, ces mesures-là ne s'appliquent qu'à des terroristes ou des supposés, présumés terroristes, etc., etc. Alors bien évidemment, quand on n'a jamais eu affaire ni à une perquisition ni à une assignation à résidence, on ne mesure pas ce que ça représente. Mais en réalité, les chiffres que je viens de livrer démontrent que d'innombrables personnes et la grande majorité des personnes qui ont subi des mesures coercitives, comme la perquisition ou l'assignation à résidence, n'avaient strictement rien à voir avec le terrorisme. Et je voudrais prendre un exemple, parce que j'en ai eu la connaissance directe et personnelle. Il s'agit d'une association de musulmans de la région, qui est venue me voir, je crois que c'était dans le courant du mois de janvier, parce qu'ils avaient fait l'objet d'une perquisition dans le cadre de l'état d'urgence, et ils avaient vu débarquer dans leur petit village du fin fond du Gers, au milieu de la nuit, une quinzaine ou une vingtaine de gendarmes avec chiens et tout l'attirail, qui sont d'abord venus perquisitionner leur domicile avant d'aller perquisitionner au sein de la mosquée, en marchant avec leurs rangers sur des tapis, etc. etc. Et ces personnes que j'ai reçues étaient des citoyens français de confession musulmane, d'origine marocaine ou algérienne, qui étaient en France depuis 30 à 40 ans, qui n'avaient jamais eu le moindre début de commencement de problème de quelque nature que ce soit avec la police, la justice ou qui que ce soit, qui entretenaient au contraire les meilleures relations, y compris avec la gendarmerie du coin parce qu'il y avait des échanges, etc., qui étaient lancés dans une politique œcuménique et qui ont vécu comme quelque chose de terriblement flétrissant, blessant, humiliant, le fait de se voir ainsi pointé du doigt au milieu de la nuit dans un petit village du fin fond du Gers où n'importe qui avait un peu de bon sens pouvait imaginer qu'il était assez peu probable que des terroristes soient en train de comploter. Eh bien, ces gens-là étaient tellement révulsés par ce qu'ils ont vécu qu'ils m'ont demandé d'attaquer l'ordre de perquisition qui avait été signé par le préfet du Gers devant le tribunal administratif. Nous avons donc fait une requête, et naturellement, c'était une requête a posteriori. Les perquisitions en question avaient eu lieu. Je les avais prévenus que l'espoir était relativement ténu parce que dans ce genre de circonstances, malheureusement, le contrôle des juridictions administratives laisse quelquefois à désirer. Eh bien, il se trouve que le tribunal administratif de Pau a rendu un jugement par lequel il a annulé les ordres de perquisition signés par le préfet du Gers en raison de leur totale absence de motivation. Donc, tout ça pour dire surtout qu'il y a beaucoup de citoyens en France qui ont vécu soit les assignations à résidence, soit les perquisitions comme quelque chose de terriblement injuste et que dans l'immense majorité des cas, ça a fait chou blanc par rapport à l'objectif proclamé. En réalité, fondamentalement, l'état d'urgence a été utilisé à des fins autres que celles qui sont officiellement les siennes, c'est-à-dire que ça n'était pas de la lutte contre le terrorisme, mais c'est une sorte de politique sécuritaire aggravée, et ça, c'est quelque chose que nous dénonçons fermement.
En fait, c'est tout simplement, on pourrait dire aussi, un argument politique. Dans ce pays, vous êtes en danger, hein, je suis le président, je suis le gouvernement, vous êtes en danger, je vais vous protéger, et il faut accepter ces mesures de protection, parce que, en fait, si tu te contentes des informations de la télé, tu gobes, c'est ça comme étant naturel. Tu penses que toute personne, effectivement, est potentiellement, ton voisin est potentiellement un terroriste. Mais quand tu fais référence, effectivement, aux renseignements et à nos espions, c'est vrai que Sarko, en son temps, avait donné des pouvoirs supplémentaires. Je veux dire, c'est pas Big Brother, mais ça y ressemble un peu, quand même, avec toutes ces lois liberticides qui sont développées dans ce pays.
Tout à fait. En réalité, je crois que la politique française, de ce point de vue-là, a connu, on va dire, un tournant en même temps que le Front National a commencé à prendre de l'ampleur sur la scène politique, c'est-à-dire dans le courant des années 80. Et depuis cette date-là, la quasi-totalité de la classe politique s'est peu ou prou, progressivement, ralliée à un degré ou à un autre à cet esprit sécuritaire. Et nous avons vu s'empiler depuis les années 85-86, une multiplicité de lois absolument effrayantes qui, l'une réforme le code pénal, l'autre réforme le code de procédure pénale, l'autre je ne sais quel texte encore, dans une confusion absolument inimaginable. Pour donner un exemple, il y a des textes qui sont modifiés avant même que les décrets d'application soient votés, et il y a même, pire encore, des hommes politiques qui, à un moment donné, proposent, voire font voter une loi dans le seul but quasiment de parader devant les caméras et de dire « nous vous protégeons », etc., etc., alors même que la disposition votée existe déjà. C'est donner une idée de ce que, aujourd'hui, cette politique sécuritaire est en réalité devenue quasi exclusivement un objet d'affichage et de communication. Et malheureusement, nous sommes extrêmement tristes de constater que, de ce point de vue-là, rien n'a changé depuis 2012, pour ne pas dire que les choses se sont aggravées. Il est vrai que Nicolas Sarkozy avait été un petit peu le champion de cette pratique consistant, à chaque fois qu'un fait divers venait émouvoir l'opinion publique, à se propulser devant toutes les télévisions de France pour dire « je vais voter une loi », comme si le simple fait de voter des lois était une solution à tous les problèmes de la France. Et malheureusement, depuis 2012, la situation n'a pas varié et elle s'est à certains égards aggravée, avec l'état d'urgence bien sûr, avec la loi sur la réforme de la procédure pénale. Et ça pose effectivement la question de ce qu'est devenue la loi en France. Nous avons des codes, on nous a dit à satiété que le code du travail était trop compliqué au prétexte de le modifier avec la loi El Khomri, nous en parlerons peut-être tout à l'heure. Mais le code de pénal, le code de procédure pénale et d'innombrables autres codes de sécurité intérieure, etc., etc., sont des textes qui sont devenus absolument indigérables, illisibles, y compris pour des professionnels, parce que, à force que les responsables politiques se saisissent de l'élaboration de la loi exclusivement à des fins de communication, n'est plus fait ce travail qui, à une époque, était le travail du législateur, ce travail en amont de l'élaboration de la loi, qui était un travail de réflexion, d'intégration d'une modification nouvelle à un ensemble préexistant, de réflexion sur la cohérence législative. Tout cela n'est plus fait. Et donc, on a des textes qui s'empilent, des mesures répressives de plus en plus complexes, l'exception qui devient la règle, l'exception à l'exception, enfin, bref, un arsenal qui n'a plus rien de démocratique. Et ce qui est terrible, c'est qu'en réalité, on peut bien évidemment se lamenter sur l'état d'urgence, sur la loi de réforme de la procédure pénale, mais la réalité, c'est que le code pénal et le code de procédure pénale tels qu'ils existent aujourd'hui et depuis déjà peut-être une dizaine ou une vingtaine d'années comportent un tel flot d'exceptions aux règles et principes de base du droit commun et de garantie des libertés qu'il est bien souvent très facile à n'importe quel procureur de la République qui veut sortir des règles du droit commun, de trouver l'alinéa de l'article qui va permettre d'en sortir. Donc on est effectivement dans une utilisation de la loi qui est, à mon sens, extrêmement grave sur le plan démocratique, parce que, bien évidemment, aucun citoyen qui ne serait un professionnel n'est en mesure de connaître, ne serait-ce que connaître, un tant soit peu, la réalité de ce qu'est la loi, mais j'allais dire que même parmi les professionnels, je me suis amusé, je savais que nous allions parler de perquisition, à aller rechercher le numéro d'une revue juridique spécialisée pour les juristes qui pratiquent le droit pénal. Il y a toute une étude qui porte sur la question des perquisitions. Alors voilà, je te montre simplement un tableau qui est fait par la revue. Sur le régime des perquisitions, il y en a 12 régimes différents de perquisition. Voilà. C'est juste un exemple parmi tant d'autres. Donc voilà, ça pose la question de l'élaboration de la loi et de cette façon qu'ont les hommes politiques en France depuis maintenant bien longtemps, malheureusement, de se servir de la loi comme d'un outil de communication. C'est véritablement extrêmement préoccupant sur le plan démocratique.
Alors ça m'amène à te poser la question suivante. On voit plusieurs tendances se faire au jour. Renforcement du pouvoir de l'exécutif, de l'administration préfectorale et des services de police. Mais dans le même temps, on dessaisit le pouvoir judiciaire, en particulier restriction des pouvoirs du juge d'instruction et rôle renforcé des procureurs de la République. Partages-tu le point de vue ?
Ah oui, mais ça, c'est même pas un point de vue, c'est l'évidence même du texte. Et c'est le propre de l'état d'urgence que de permettre aux autorités administratives et en particulier au ministère de l'Intérieur et au préfet de prendre un certain nombre de décisions coercitives et donc portant atteinte à la liberté individuelle sans avoir à aucun moment à en référer aussi peu que ce soit à l'autorité judiciaire dont je rappelle que notre Constitution prévoit qu'elle est la gardienne des libertés individuelles. Au demeurant, cela suscite aujourd'hui beaucoup d'émoi dans la magistrature qui ne cesse de se plaindre de ce transfert progressif des pouvoirs de l'autorité judiciaire vers l'autorité administrative. C'est effectivement un élément supplémentaire de préoccupation et d'inquiétude à l'égard de la question des libertés publiques, parce que qu'à l'occasion des mesures coercitives puissent être prises contre certains citoyens, ça va de soi. Ça va de soi. Que ce soit d'ailleurs dans le cadre des infractions de droit commun, ou bien évidemment, a fortiori, dans le cadre des infractions relatives au terrorisme. Mais le propre d'une démocratie, de ce point de vue-là, c'est que précisément tout citoyen qui se voit accusé de quoi que ce soit et qui se voit soumis à des mesures coercitives et portant atteinte à ses libertés, peut en référer à un juge, et un juge gardien des libertés individuelles, et en l'espèce dans notre système juridique, c'est le juge judiciaire, c'est le juge d'instruction, c'est le juge des libertés de la détention, etc. etc. Et il peut y avoir un débat devant ce juge, la personne étant assistée d'un avocat, qui a pu prendre connaissance du dossier, qui peut faire valoir une défense et qui peut éventuellement contester le bien fondé, l'opportunité de la mesure, etc. etc. C'est le béaba. C'est le béaba. Eh bien, avec l'état d'urgence, que ce soit l'assignation à résidence ou les perquisitions, elles sont décidées par le préfet ou le ministre en dehors de tout contrôle. Elles sont réalisées sans qu'à aucun moment le citoyen n'ait été en mesure de faire valoir son point de vue. Et le contrôle, le seul contrôle qui existe, est le contrôle par un juge administratif a posteriori. On connaît les délais de la justice administrative qui sont des délais très longs. Bref, c'est un contrôle inexistant. Et je peux vous dire que pour beaucoup des citoyens qui ont subi ces mesures depuis l'instauration de l'état d'urgence en France au mois de novembre 2015, se trouvaient comme ça du jour au lendemain, sans avoir à aucun moment la possibilité de discuter, de faire valoir sa position, a priori, pas a posteriori, a priori. C'est quelque chose d'insupportable. Et je vous parlais tout à l'heure de ces musulmans citoyens de confession musulmane de la région, qui sont venus me voir, mais un mois ou deux mois après la perquisition réalisée chez eux, en m'apportant tout un tas d'éléments pour me démontrer que la motivation de l'ordre de perquisition du préfet était une insulte qui ne correspondait en rien à ce qu'ils étaient. Le préfet soupçonnait certains d'entre eux de mener terroristes. C'était ridicule. Et ça ne tenait pas la route une seconde. Et au demeurant, le tribunal administratif l'a admis. Mais ça n'a pu être discuté qu'après. Donc ces gens-là ont pu voir, au milieu de la nuit, les gendarmes débarquer comme ça et ne rien faire. Les gendarmes...
En fait, en 58-63... De Gaulle a décidé par ordonnance que c'était le gouvernement qui décidait sans référer à l'Assemblée nationale l'état d'urgence. Et on est toujours dans cet esprit de cette ordonnance antidémocratique. En fait, le gouvernement décide que c'est les policiers qui vont faire la justice et plus la justice qui fait la justice. Et effectivement, ça peut entraîner des sacrées dérives, oui.
Alors du point de vue de notre régime constitutionnel, c'est un petit peu plus complexe, puisque tu sais qu'en réalité, aujourd'hui, l'état d'urgence est voté, la prolongation de l'état d'urgence est votée par le Parlement. Mais de fait, qu'a-t-on constaté depuis le départ ? C'est que dans notre régime constitutionnel, eh bien, le Parlement tend systématiquement à s'incliner devant les desiderata du gouvernement, et qu'en réalité, la première prolongation de l'état d'urgence avait été votée à la quasi-unanimité, et le gouvernement n'a pas rencontré davantage de difficultés pour les prolongations successives. Aussi, scandaleuses soient-elles, par rapport au fait que, 7 mois après les attentats, de deux choses l'une, soit on revient à la réalité et on dit nous ne sommes plus dans une situation d'urgence, mais dans une situation qui sera celle de la France longuement, et on arrête, soit on continue encore l'état d'urgence, mais alors là, ça veut dire qu'il faut changer tout simplement notre constitution, dire qu'on n'est plus dans un régime démocratique répondant aux normes de ce qu'est un régime démocratique, mais dans un régime où le pouvoir administratif, exécutif, a quasiment tout pouvoir, sans aucun contrôle, ce qui est évidemment extrêmement grave.
C'est... Oui, voilà. Donc, toujours dans cet esprit, on se rend compte que les textes évoluent dans le sens de l'imprécision. Si on fait référence à la loi du 3 avril 1955, c'est le premier état d'urgence qui avait été motivé à l'époque pour lutter contre l'insurrection algérienne. Donc ce texte écrit que pour inculper un suspect, il faut un péril imminent, résultat d'atteinte grave à l'ordre public. Or, le texte de 2015 est beaucoup plus flou puisqu'il dit pour la même inculpation, il suffit d'avoir des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre public. N'est-ce pas ? Cette tendance se retrouve dans d'autres textes, y compris dans la loi travail. Mais je vais te demander, qu'en penses-tu ? Ça rejoint ce que tu étais en train de dire, quoi. On peut développer peut-être un peu là-dessus aussi.
Oui.
Cette manière qu'a ce gouvernement d'utiliser cette loi d'urgence contre, en fait, les libertés démocratiques et contre l'être humain.
Tu as absolument raison. Et d'ailleurs, cette partie du texte que tu cites à juste titre est absolument scandaleuse. Rappelons que nous sommes en train d'examiner une disposition importante de la loi sur l'état d'urgence. Et l'état d'urgence, naturellement, n'est pas fait pour lutter contre les vols, les délits de je ne sais quoi, etc. Mais il nous est présenté systématiquement comme ayant été instauré et prolongé dans le but de participer à la lutte contre le terrorisme. Il faudrait que les mesures qui peuvent être prises dans l'état d'urgence soient conditionnées à ce qu'existent des indices, qualifions-les sérieux ou pas, peu importe, mais qu'il existe des indices d'avoir participé à une entreprise terroriste. Or, tu viens de le lire, le texte lui-même prévoit, s'agissant de l'assignation à résidence, qu'elle peut être décidée lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser que le comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre public. Et tu as tout à fait raison. Une menace pour la sécurité et l'ordre public, c'est quoi ? L'ordre public, il n'est pas défini dans notre droit. Chacun en fait l'appréciation qu'il veut. Mais, j'allais dire, le moindre citoyen qui va, par exemple, voler, porte d'une certaine manière atteinte à l'ordre public. Et je ne parle pas du citoyen qui a maille à partir avec la police dans une manifestation, etc. On est à des milliers de lieues de la question du terrorisme. Ce qui signifie encore une fois que on est presque dans une opération de charlatanerie lorsque l'on nous dit que l'état d'urgence a pour objectif de lutter contre le terrorisme, puisque le texte lui-même, tel qu'il vient d'être lu, nous autorise à placer sous assignation à résidence des individus simplement parce qu'ils ont, selon des critères d'ailleurs qui sont extrêmement subjectifs, vagues et prêteraient à de très longues discussions, mais ils ont porté une menace pour la sécurité et l'ordre public. C'est totalement incohérent, mais en réalité, ça ne fait que s'inscrire dans le prolongement de ce dont je parlais tout à l'heure sur la loi, parce que la loi française aujourd'hui, elle est systématiquement de cet ordre-là. Systématiquement de cet ordre-là. Et vous savez, le principe, bien souvent, dans notre procédure pénale, c'est quoi ? C'est qu'il y a une règle protectrice des libertés, et puis le texte autorise les dérogations à cette règle protectrice des libertés dans certains cas spécifiés. Mais les cas spécifiés sont bien souvent spécifiés d'une manière à ce point vague, exactement comme nous venons d'en parler pour l'état d'urgence, qu'en réalité, bien souvent, n'importe quel ministère public ou n'importe quel magistrat, juge d'instruction, juge des libertés, qui veut contourner le principe de précaution et le principe plutôt de protection de la liberté, peut le faire sans qu'il y ait matière à véritable discussion et sans qu'aucune chambre d'instruction, cour d'appel, cour de cassation ne trouve à y redire. Donc voilà, ce que je veux dire par là, c'est que ce fait que tu pointes à très juste titre sur l'état d'urgence, le flou du texte, le fait qu'il permet toutes les interprétations en conséquence de quoi n'importe qui peut se retrouver assigné à résidence ou faire l'objet d'une perquisition si l'on s'en tient au texte, ça existe malheureusement déjà dans notre droit commun.
Alors ça nous permet d'aborder la dernière question, c'est la portée de l'état d'urgence qui va au-delà donc de la prévention du terrorisme, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, mais qui permet d'interdire de manifester, par exemple la COP21, sur la loi du travail, des militants sont assignés à résidence, par exemple l'aéroport de Dames, etc. À ce sujet, la Ligue des droits de l'homme s'est exprimée. Tu peux revenir sur cette déclaration et préciser s'il y a des cas précis dans notre région et quelles sont les conséquences de ces dispositions pour le citoyen lambda, quoi.
Oui, alors tu fais bien de le dire parce qu'on a beaucoup parlé des assignations à résidence et des perquisitions parce que ce sont un peu les deux mesures phares de l'état d'urgence, mais il est vrai qu'il y a d'autres mesures et notamment les restrictions à la liberté de circulation. Et là encore, nous nous sommes élevés contre pas tant le principe de la restriction qui, à un moment donné, peut s'entendre lorsque, par exemple, on est confronté à une personne sur laquelle pèsent en effet des indices plus ou moins importants de ce qu'elle participe à une entreprise terroriste. Il n'y a pas de discussion sur le fait de restreindre la liberté de circulation d'une personne dans ces circonstances-là. Nous nous sommes élevés contre le fait que cette disposition, qui est évidemment extrêmement dangereuse au regard de ce que sont les libertés fondamentales dans une démocratie, et notamment le droit de manifester, était utilisé en réalité à des fins qui n'avaient strictement rien à voir avec la question du terrorisme. Nous avons parlé tout à l'heure de la question de la COP21, où l'on sait qu'un certain nombre de militants qui souhaitaient participer aux manifestations en ont été interdits, mais c'est encore aujourd'hui le cas. Et il y a eu en Toulouse en particulier un cas très récent, puisque c'était à l'occasion des manifestations contre la loi El Khomri. Autant dire que beaucoup de djihadistes ont manifesté contre la loi El Khomri à Toulouse. Hein. Eh bien, deux militants qui voulaient manifester contre la loi El Khomri le 19 mai dernier se sont vus destinataires d'un arrêté d'interdiction de circulation émis par le préfet la veille de la manifestation, alors que ça aurait pu être fait 8 jours avant, 15 jours avant, la manifestation a été annoncée depuis assez longue date. Donc ils se sont retrouvés interdits de manifester, alors que naturellement ils n'ont strictement rien à voir, je le répète, avec quelque infraction terroriste que ce soit. Et le pire, et ça revient à ce que l'on disait tout à l'heure, c'est qu'ils ont voulu saisir le tribunal administratif, et naturellement ça doit être fait dans l'extrême urgence dans ce genre de situation, et le tribunal administratif de Toulouse n'a pas pu se réunir dans les délais, moyennant quoi il n'a pu rendre qu'un jugement a posteriori pour dire qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur cette affaire-là. Alors, je veux, puisque nous parlons de cette question du droit de manifester, élargir un peu le propos au-delà de la question spécifique de l'état d'urgence. Parce qu'il y a réellement aujourd'hui, me semble-t-il, et nous semble-t-il à la Ligue des droits de l'homme, un problème extrêmement grave. Le droit de manifester, je l'ai dit, c'est un des droits les plus fondamentaux qui existent dans une démocratie, le droit de faire valoir son opinion. Nous ne sommes pas dans un système où une fois que l'on aurait voté, à échéance régulière par exemple tous les 5 ans, tous les citoyens devraient se taire et n'auraient à aucun moment la possibilité de faire valoir leur point de vue. Voter pour un gouvernement, ça n'est pas lui donner un blanc-seing absolu de faire ce qu'il veut, surtout lorsqu'il fait en réalité l'inverse de ce qu'il a annoncé. Et donc, le droit de manifester, j'enfonce une porte ouverte en disant cela, mais enfin, il faut le répéter, il n'est pas de démocratie qui ne reconnaisse et protège le droit de manifester. Or, au-delà même de la question de l'état d'urgence, nous constatons depuis d'assez nombreuses années maintenant que la façon dont les opérations de maintien de l'ordre sont organisées en France porte de plus en plus atteinte au droit de manifester. À la Ligue des droits de l'homme, nous nous étions penchés avec beaucoup de précision sur ce qui s'était passé à Sivens et sur les opérations de maintien de l'ordre qui ont abouti à la mort de Rémi Fraisse. À cette occasion-là, nous sommes allés à Sivens et à Gaillac à de nombreuses reprises. Nous avons entendu de très nombreuses personnes. Nous avons procédé à des investigations importantes. Et ce que nous avons pu dire en conclusion, c'est que les proclamations du ministère de l'Intérieur, du Premier ministre et de je ne sais qui encore, consistant à dire qu'en réalité la mort de Rémi Sivens n'était que la conséquence malheureuse du fait que les forces de l'ordre avaient été contraintes de faire l'usage de la force pour faire face à des hordes de casseurs, ces proclamations étaient mensongères. Je veux simplement, pour donner un exemple, vous permettre de faire la comparaison entre le nombre de projectiles lancés par les forces de l'ordre, je parle de projectiles explosifs ou incendiaires, 700 selon l'enquête officielle, et le nombre de projectiles connus ayant émané du côté des assaillants, comme les appelle le ministère de l'Intérieur, et je parle bien sûr de projectiles incendiaires, il y en a eu 2. Voilà. Cette simple disproportion, 700 projectiles incendiaires explosifs d'un côté, 2 ou quelques-uns supplémentaires de l'autre, donne une idée du fait que l'argument que l'on entend, et que l'on entendait déjà au lendemain de la mort de Rémi Fraisse, disant « oui, mais il y a des casseurs, etc. », c'est un argument d'affichage, c'est un argument qui vise à discréditer un mouvement social. Eh bien, ce à quoi nous avons assisté à Sivens, malheureusement, est devenu la règle. Et on le voit en particulier autour des manifestations contre la loi travail, puisque, j'allais dire maintenant, il y a un scénario qui est bien huilé chez les politiques, qui consiste, d'une part, à faire en sorte que les opérations de maintien de l'ordre soient organisées sur un mode qui autorise les casseurs, parce qu'il y a incontestablement des casseurs dans ces manifestations, qui autorise les casseurs à se livrer à leur dégradation, déprédation, etc., sans qu'à aucun moment on y mette un terme en les interpellant. Ainsi, on fait des images de ces casseurs que l'on peut passer en boucle devant toutes les télévisions. Ensuite de quoi, on donne les consignes aux forces d'ordre d'aller taper dans le tas à un moment donné où les casseurs se sont dispersés, où ce sont plus que les militants, les citoyens, les manifestants ordinaires qui sont là, mais qui, dans cette ébullition, se retrouvent au cœur des événements et se font bien souvent, on en a malheureusement aujourd'hui de nombreuses preuves, notamment par vidéo se font molester très sévèrement par les forces de l'ordre. S'ajoute à ça que désormais, et c'est abasourdissant, on assiste à des poursuites devant le tribunal correctionnel en comparution immédiate contre des militants. On sait qu'il y a un militant CGT qui a été envoyé en détention provisoire et jeté il n'y a pas longtemps au tribunal correctionnel de Toulouse, où le procureur de la République a demandé le placement en détention provisoire d'un étudiant qui avait un casier judiciaire vierge et qui contestait fermement les faits dans un dossier où, semble-t-il, les preuves étaient quand même pour le moins ténues. On demandait l'envoi en détention de cet étudiant au casier judiciaire vierge. Et dans le même temps, nos responsables politiques vont se répandre dans les médias en disant « mais ce sont des casseurs, maintenant c'est la CGT qui est pointée du doigt ». C'est-à-dire qu'en gros, on remet en cause le droit de manifester et on dit « non, c'est l'ordre qui doit primer, l'ordre, qui sert un certain nombre de politiques à donner des coups de menton devant toutes les télévisions de France et de Navarre pour prétendre protéger le peuple, mais qui en réalité devient extrêmement inquiétant par rapport à notre liberté de manifester.
Oui, en fait, les casseurs qui peuvent casser sans se faire du souci, ne sont, on peut dire qu'ils servent étroitement le gouvernement, et ça permet à ces politiques dont le menton se lève, effectivement, comme tu dis, de nous jouer, vous voyez, nous on est là, on vous protège. C'est toujours ce même discours, n'ayez pas peur, on est absolument là, on vous protège. Absolument. N'ayez pas peur, on est là.
Et je voudrais rajouter, parce que vous savez, c'est toujours compliqué d'essayer de comprendre comment se passent ces manifestations, mais nous avons eu un élément supplémentaire absolument sidérant il n'y a pas longtemps, avec un responsable du syndicat de police Alliance, qui a dénoncé ces pratiques, qui a dénoncé le fait que dans les manifestations de cette nature, on ne donne pas aux forces de l'ordre l'instruction d'interpeller immédiatement les casseurs, mais on leur dit non, vous ne bougez pas dans un premier temps jusqu'à ce que la situation s'envenime de manière considérable. Et c'est lorsque tout explose que là, on envoie et forcément, dans le lot, il y a des citoyens qui se retrouvent même pris à partie, interpellés, déférés quelquefois. Donc, pour vous dire qu'un responsable du syndicat de police Alliance puisse dénoncer cela, il n'est pas suspect de gauchisme, il n'est pas suspect d'adhérer à la Ligue des droits de l'homme. Voilà, c'est une organisation générale qui pose de graves questions en termes démocratiques.
Bien, Pascal, on va arrêter là cette interview. Je te remercie du temps que tu nous as consacré.
Avec plaisir.
Cette émission, on va passer donc des bulles dans le bocal sur Internet et puis peut-être sur Radio-Canal Plus. Mais en tout cas, merci pour tout ce que tu nous as apporté comme éclaircissement. Et j'espère que nos auditeurs regarderont les déclarations de notre ministre numéro un, du président qui, même du Japon, dit « Attention, je vais m'énerver différemment ». En tout cas, merci beaucoup, Pascal, de nous avoir reçus.
Merci à toi.
Ma liberté, longtemps je t'ai gardée. Comme une perle rare. Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les amarres. On allait n'importe où, on allait jusqu'au bout des chemins de fortune. On cueillait en rêvant une rose des vents sur un rayon de lune. Ma liberté, devant tes volontés, ma vie était soumise. Ma liberté, je t'avais tout prêté, ma dernière chemise. Et combien j'ai souffert pour pouvoir satisfaire toutes tes exigences. J'ai changé de pays, j'ai perdu mes amis pour gagner ta confiance. Ma liberté, tu as su désarmer mes moindres habitudes. Ma liberté, toi qui m'as fait aimer même la solitude. Toi qui m'as fait sourire quand je voyais finir une belle aventure. Toi qui m'as protégé quand j'allais me cacher pour soigner mes blessures. Ma liberté, pourtant je t'ai quitté une nuit de décembre. J'ai déserté les chemins écartés que nous suivions ensemble. Lorsque sans me méfier, les pieds et poings liés, je me suis laissé faire. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle geôlière. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle geôlière.
Eh bien, chers amis auditeurs des Bulles dans le Bocal, nous reprenons notre émission après cette pause musicale ô combien agréable et après l'interview de M. Nakache. Je suis avec Bernard. Bernard, l'état d'urgence va perdurer jusqu'au 27 juillet 2016. Pour arriver à prolonger cet état d'urgence, il faut absolument manipuler le peuple, lui faire croire que c'est nécessaire. Bernard, peux-tu nous parler un peu de cette manipulation ?
Oh oui, cette manipulation, elle prend des formes bien particulière. On peut constater que l'essentiel des médias écrits, audio ou télévisuels sont aux mains de groupes capitalistes influents, dont les intérêts divergent considérablement de ceux de l'immense majorité des citoyens. Comment le citoyen peut-il se faire une opinion juste si son environnement médiatique biaise les faits, cache les événements contraires aux intérêts des puissants ? Un exemple caricatural, c'est la gestion de Canal+ par Bolloré. Je ne détaillerai pas. On peut citer également Niel, PDG de Free, qui déclare, avec un certain culot, « Quand les journalistes m'emmerdent, je cite, je prends une participation dans leur canard et ensuite ils me foutent la paix. » Le Monde, qui fait partie de ces participations, est bien silencieux sur ses pratiques dans son empire Free, avec des pratiques qui sont douteuses. C'est QFD.
Donc les médias, Bernard, que ce soit radio, télé, journaux, sont au service du gouvernement et ont comme mission, si je te suis bien, d'inculquer cette idée au peuple que l'état d'urgence est une nécessité car il faut absolument se protéger des méchants.
Oui, tout à fait. L'état d'urgence, la loi travail, tout ce qui va dans le sens des intérêts du système capitaliste dans lequel on vit. Mais on peut ajouter que l'Union européenne vient de sortir une directive sur le secret des affaires qui, en menaçant la liberté d'investigation des journalistes, touche à notre droit à l'information. On en arrive à ce qu'un lanceur d'alerte comme Éric Dupin, des LuxLeaks, qui est félicité récemment par le Parlement européen, soit condamné par le Luxembourg. Et récemment, Michel Sapin parlait de protéger les lanceurs d'alerte et les lois françaises et les directives européennes vont dans le sens contraire.
C'est-à-dire qu'on veut faire croire que d'un côté on protège les journalistes qui sont maltraités, on le verra dans la seconde partie, mais en même temps l'Europe et donc les technocrates de l'Europe que nous n'avons pas élus pondent des lois, les font appliquer à un gouvernement quand même qui ne respecte pas du tout, me semble-t-il, pour protéger la liberté d'expression et d'information.
Tout à fait. La plupart des lois ne sont pas votées par les représentants que nous élisons, c'est-à-dire nos députés, mais l'essentiel de leur travail consiste à transcrire dans le droit français des directives européennes rédigées par des fonctionnaires européens non élus et donc non contrôlables.
Pascal, on a parlé de ces droits individuels qui ont été bafoués. Hein, il a cité plusieurs exemples. Mais on peut dire quand même que dans ce contexte précis d'abus de pouvoir, parce que c'est un abus de pouvoir, il y a derrière cet abus la volonté affichée du gouvernement d'imposer d'une manière violente, parce que c'est violent, des lois qui sont anti-républicaines contre le peuple, parce qu'il faut casser cette volonté du peuple de se défendre et en même temps lui mettre l'obliger à accepter cette situation actuelle. Non ? Qu'en penses-tu, toi, mon ami camarade citoyen ?
Ce que j'en pense, c'est que puisque les médias, la plupart des médias sont aux ordres, bon, la plupart des gens pensent avoir une opinion, et ils se forment une opinion à partir de ces médias, qui évidemment cachent la réalité des choses. On ne peut avoir de vérité, je dirais, d'approche de la vérité, que quand on lit des documents produits par des organisations politiques qui défendent les intérêts des citoyens ou par des documents syndicaux qui montrent ce que sont les grèves et non pas des incantations contre les pratiques des syndicats qui seraient très, très violents.
Oui, ça fait partie effectivement de la manipulation. Aujourd'hui, on fait du micro-trottoir, nous sommes pris en otage. C'est formidable parce que les gens sont pris en otage à l'heure actuelle par les organisations syndicales qui défendent la loi du travail et qu'en fait les défendent eux. Mais quand un patron vire des salariés, on n'entend pas le micro-trottoir dire les patrons prennent les salariés en otage. C'est une conception très particulière. Mais dans le même temps, puisqu'il faut absolument faire passer cette loi inique qui est la loi El Khomri, il faut absolument que le gouvernement se donne les moyens de l'imposer. Il faut donc dénigrer les organisations syndicales qui se battent, caresser et mettre en avant les syndicats qui sont collaborateurs, comme la CFDT, la CFTC, pour que les gens soient complètement perdus et se disent à un moment donné « Ouais, mais est-ce qu'on a le choix ?» C'est le discours que tenait Thatcher, c'est ça ou rien. On n'a pas d'autre choix que celui-là. Et ça, quand même, pour moi, c'est important dans une France en 2016 où tout va servir de pression. C'est-à-dire, quand on dit au peuple, on casse le code du travail, mais vous vous rendez compte qu'ils vont vous empêcher de regarder l'euro de football, on prend quelque part les gens pour ce qu'ils ne sont pas. C'est-à-dire, c'est pas possible. C'est quand même le gouvernement qui prend le pays en otage et pas les syndicats qui prennent les gens en otage. Non?
Oui, ben je vois, par exemple, j'écoutais l'autre jour un reportage sur iTélé, je crois, une journaliste qui essayait de pousser le responsable syndical de Donges, de la raffinerie de Donges, en lui disant, vous prenez justement les gens en otage, vous bloquez le pays, vous bloquez la raffinerie, etc. Mais le responsable a dit très clairement, mais nous sommes en grève parce que c'est un droit, la grève. Et en s'adressant à la journaliste, il lui dit, mais quand vous êtes en grève... on ne dit pas que vous bloquez la télé. Donc elle ne savait plus quoi répondre. Hein. Je trouve que c'était exactement la bonne réponse.
Alors, rapidement, mais c'est vrai que le droit de grève... Valls commence par dire que le droit de grève est un droit constitutionnel. Les travailleurs peuvent faire grève. Mais en fait, il faudrait des grèves qui ne gênent pas. En gros, c'est ce que dit la CFDT. Le patron, il est gentil. Nous, on est gentils. Entre gentils, on devrait faire avancer le pays et l'entreprise. Mais le problème, c'est qu'ils ne sont pas gentils. C'est pas les intérêts de Gattaz, qui est un triste sire. Les intérêts de Gattaz ne sont pas ceux du peuple. Et c'est pour ça que les gens se battent. Et c'est pour ça que le gouvernement, pour empêcher... Parce que la loi... parce que cet état d'urgence, c'est quand même la remise en cause. On l'a vu dans l'interview de Pascal Nakache. Mais c'est quand même la remise en cause du droit de manifester. Quand il cite ces deux Toulousains qui ont été interdits de manifester, demain, toi, Bernard, on peut te dire non, vous n'avez pas le droit, vous, de manifester, me le dire à moi ou le dire à Patrick. C'est ça, en fait. C'est une remise en cause de nos libertés individuelles.
Tout à fait. Et en ce sens, les journalistes sont très maltraités. Je lisais dans un communiqué de Reporters sans frontières qui disait... à propos des violences policières permises par le flou des textes, ou on peut dire directement illégales, parce qu'un certain nombre de policiers se proposent des pratiques totalement illégales. Hein. Mais je cite, « Reporters sans frontières exprime sa très vive inquiétude après les violences policières perpétrées ces derniers jours par les forces de l'ordre contre des reporters. À l'occasion des manifestations contre la loi travail, certains journalistes n'hésitent plus à dire que leur brassard presse fait d'eux une cible. » Les témoignages photos et vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux se multiplient. On l'a vu, hein, il suffit d'ouvrir Internet et on en a des flopés de choses, de témoignages. Et RSF rappelle que la France occupe la 45e position sur 180 dans le classement mondial de la liberté de presse en 2016.
C'est quand même... quelque chose d'impressionnant et qu'on devrait avoir en mémoire. Je crois que c'est ça qu'il faut que les gens aient dans leur tête. C'est se dire qu'aujourd'hui, pour appliquer cette politique du gouvernement, qui est une politique antisociale, ils sont acculés et pour la faire passer, ils sont obligés de nous interdire, de nous renier nos libertés, de nous renier le droit à l'expression, de nous renier. Et ils ont besoin d'une Assemblée nationale de godillots qui votent, qui ne cherchent pas à comprendre, qui lèvent la main en disant « oui, président ». C'est ça qui est catastrophique. Ce pays, effectivement, le pays de Vurclair et d'Hugo, est en perte de vitesse. Je crois que on va laisser un peu de temps à la musique qui adoucit les mœurs, mais en fait, manipulation, Bernard, du peuple de France pour servir les intérêts de la bourgeoisie, du grand capital. On est à des années-lumière de ce qui se passe dans le prétexte du terrorisme. Et si ma mémoire est bonne, c'est en Suède qu'il a, le mec, il avait tué énormément de gens sur l'île. Il n'y a jamais eu d'état d'urgence. Comme quoi, il faut qu'on réfléchisse. Depuis, on en parle avec Nakache, depuis 1955, tous ces textes de loi qui ont été mis en place, ils ont toujours été mis en place pour des raisons particulières, c'est-à-dire défendre les intérêts de certains, interdire la liberté d'expression et faire passer la pilule qu'ils n'arrivent pas à faire passer, malgré les efforts de la CFDT, malgré les efforts. Ils ont réussi à même avoir Gattaz qui n'est pas d'accord avec eux. C'est quand même phénoménal, ça. Gattaz qui est quand même un sacré personnage. Bien, chers amis auditeurs, on fait une petite pause et on se retrouve juste après. Bien, chers amis auditeurs, la dernière partie de notre émission « Des bulles dans le bocal » consacrée à l'état d'urgence. On a vu avec Bernard tout à l'heure la manipulation nécessaire pour faire passer cet état d'urgence et toutes les lois antidémocratiques. Mais il y a quelque chose qui est frappant, on le voit à la télévision, c'est la violence de la situation actuelle. Et cette violence n'est pas innocente, cette violence est juste, c'est tout à fait juste que les travailleurs... Parce qu'une grève, c'est quelque chose de violent, c'est pas une... partie de carte, mais il y a aussi, à mon avis, Bernard, ça, je pense qu'il faudrait qu'on échange un peu sur cette situation violente dans laquelle se retrouve le pays et l'utilisation que fait ce gouvernement de cette violence avec des casseurs, puisque c'est comme ça qu'on les appelle, conscients ou pas, manipulés ou pas, qui justifient, eux, que l'on continue l'état d'urgence et que tout à coup, la violence policière dont tu parlais juste avant la fin de la première partie de l'émission, que cette violence policière puisse se développer. Et il y a quelque part là derrière un fond de racisme, tu vois. Quand tu vois, ce matin, j'écoutais une radio publique connue par beaucoup de gens qui disait, le journaliste disait, j'ai vu sortir les policiers d'un car, il y avait un photographe qui était en train de se préparer pour faire des photos, il s'est pris des coups de matraque alors qu'il n'y avait pas de manifestants. Les manifestants étaient beaucoup plus loin et lui, le caméraman, il s'est pris aussi des coups de matraque. Je n'en dis pas plus, je te laisse la parole, Bernard. Ouais.
Mais on a vu, par exemple, et c'est là que le flou des textes permet un certain nombre de choses, plus, comme je le disais, des pratiques policières qui se moquent pas mal de n'importe quel texte. Ils comprennent simplement qu'on leur a dit qu'il fallait que l'ordre règne. Hein. Bon, par exemple, quand les casseurs, c'est intéressant quand même, parce que quand ils voient des casseurs qui s'apprêtent à casser une vitrine, ils ne vont pas les arrêter, comme on a pu le voir souvent. Alors que dans les textes, il est dit, s'il y a une présomption de quelque chose, on arrête des gens avant qu'ils soient grévistes, on empêche des gens de manifester, et là, c'est la présomption. Mais quand les gendarmes sont devant quelque chose qui va se produire, la présomption, elle se rapproche sérieusement, là, ils font rien. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Parce que cette violence, elle permet de monter l'opinion publique, parce que dès qu'il y a une vitrine cassée, ça fait plus de bruit que les revendications calmes des salariés grévistes.
C'est vrai que l'utilisation que font les médias de ces casseurs, de ces vitrines saccagées, de ces jeunes qui, avec des barres de fer, tapent. Ça qui est impressionnant, tu te demandes comment dans ce pays, avec tous les mecs qui espionnent, qui écoutent, etc., on arrive à laisser des gens pénétrer un cortège, casser des vitrines et s'en aller tranquillement, alors que les manifestants, eux, vont prendre des coups de matraque, vont prendre des bombes lacrymogènes dans les yeux, etc., etc. Et après, on fait un micro-trottoir, on interview. À juste titre, moi, je pense que le commerçant qui dit qu'il en a ras-le-bol, il a tout à fait raison. Il a raison d'en avoir ras-le-bol. Mais comment ça se fait que ces casseurs, ils sont toujours tranquillement? Tu vois, les mecs, ils partent. Et c'est fini. On peut recommencer les images d'après. Et tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, on y retourne. Violence. Violence, donc, qui n'est pas innocente. Violence qui sert à manipuler. Violence d'un gouvernement violent qui a amené les gens à être violents dans la façon de se défendre, mais qui favorise la venue de groupuscules qui permettent, eh bien, de justifier l'état d'urgence et toutes ces lois à la con. Parce que tant qu'on parle des casseurs, on parle pas de la loi El Khomri. On ne parle pas de la violence d'un Valls, parce qu'il est extrêmement violent, ce garçon, de par son attitude, de par le mépris qu'il affiche en disant « c'est comme ça, je resterai ». Il y en a un autre qui était resté droit dans ses bottes, mais à un moment donné, il a quitté ses bottes dans les années 95, si ma mémoire est bonne. Tu vois, tu comprends, Bernard ?
Oh oui, on peut dire que cette violence, c'est la violence de cette constitution de la Ve République aussi, parce que l'article 49.3, c'est une violence institutionnelle. Si le gouvernement a utilisé pour faire passer la loi travail, le 49.3, c'est bien parce qu'il avait peur de ne pas avoir de majorité. Pourtant, il pensait jusqu'à présent avoir un Parlement à sa botte. Mais il a eu peur et il a utilisé un texte complètement antidémocratique qui nie l'existence du Parlement et des représentants du peuple.
C'est vrai que cette Constitution, on fera une émission, je pense, sur cette Ve République qui n'est pas une République, qui est une monarchie qui n'ose pas dire son nom. Mais c'est vrai que De Gaulle, il fait un double coup d'État et qu'il instaure effectivement des lois qui vont être antidémocratiques. Et tu as raison, le 49.3, c'est dire aux élus, vous vous taisez, ça va passer comme ça. Et de toute façon, qu'est-ce qu'on leur demande aux élus? De dire oui, on est d'accord. C'est et puis, alors, ça va aller au Sénat avec un Sénat de droite, ultra de droite, ça va revenir et François Hollande s'imagine, parce que les sénateurs de droite vont en rajouter, que nous on va dire ah ben alors, c'est cette politique du vaut mieux ça que rien, vaut mieux ça que plus grave, vaut mieux, c'est ça qui est dangereux. Et ça aussi, moi je crois que nous avons Madame El Khomri, Monsieur Valls, le Cazeneuve et compagnie, ce sont des représentants d'une bourgeoisie, du capitalisme, et les petits valets, tu sais, ces tout petits porteurs d'eau qui rêvent d'un jour d'être les maîtres à la place des maîtres. Je vais être comme Isnogoud, je vais être calife à la place du calife. Eh bien, ces gens-là ont besoin de cette violence. Et cette violence, moi, Valls, quand il te parle et qu'il s'adresse au peuple, quand il s'adresse à l'organisation syndicale, que ce soit la CGT ou Force ouvrière CGT, je veux dire, il est violent. Il méprise les leaders syndicaux. Et ils te font des mayonnaises sur parce qu'il y a un article de la presse qui n'est pas passé. Mais je veux dire, c'est quand même une violence extrême.
Mmh. Oui, mais cette violence, tu parles de Gattaz, mais moi, je me souviens de l'ancienne présidente du MEDEF, Parisot, qui a été, je dirais, encore pire que Gattaz quand elle disait « La vie et l'amour sont précaires, pourquoi le travail ne le serait-il pas ?» C'était démonter totalement tous les acquis du mouvement ouvrier d'un coup. Elle était même pire Kessler. Kessler, vice-président du MEDEF de son prédécesseur, quand il disait « Notre programme, c'est de détruire tous les acquis de 45 ». Là, elle va à la racine. C'est l'ensemble du mouvement ouvrier qu'elle démolit. Hein. Bon, donc, quand on a des gens qui représentent une classe sociale, le patronat, on va dire, et qui tiennent des propos de ce genre, on sait que c'est la guerre. Hein. Et comme c'est la guerre, ils utilisent des gouvernements aux ordres et le bras armé de ces gouvernements pour faire céder le peuple. Mais le peuple ne veut pas céder. Et c'est bien ça leur problème aujourd'hui. C'est que le peuple résiste et qu'il ne veut pas de ces lois liberticides. Il veut avoir les libertés démocratiques, il veut avoir le droit de travailler, il veut avoir le droit de se soigner, il veut avoir le droit que ses enfants puissent aller à l'école et une culture et en faire des citoyens conscients. Parce qu'on est en train de démolir la citoyenneté tout simplement parce qu'on démolit aussi l'école.
Oui, oui, on fait en sorte d'avoir des gens qui ne sont que des moutons, entre guillemets, qui vont accepter sans rien dire. Il est vrai que la résistance à la loi M. Khomri les surprend, parce qu'ils ne s'attendaient pas à ça. Ils étaient convaincus que... Ils ont tellement fait, parce que c'est... Avant la loi M. Khomri, tu te souviens, ce tapage avec tous ces guignols qui se pointaient à la télé. Regardez, le code du travail, il fait 20 kilos en France, et il fait 300 grammes en Suisse, etc., 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 etc. Je veux dire, il y a un tapage, il y a eu une volonté de dire il faut le casser, ce code du travail, il faut le casser. Et comme ils n'arrivent pas à le casser et être modernes, c'est tout chamboulé, eh bien, ils font cette loi M. Khomri qui, en fait, est, comme tu dis, permet de retourner en arrière, permet de tout casser. Parce que l'objectif, en dehors du code du travail, et c'est pour ça que ce gouvernement est un gouvernement très violent, l'objectif, c'est de remettre en cause tous les acquis, les uns après les autres, et la sécurité sociale, et ceci, et cela. Et c'est pour ça qu'ils sont tellement contents de voir des gens faire ces fameux Uber, taxi, Uber. C'est-à-dire, c'est ça, on fait croire à notre peuple qu'il suffit de louer sa chambre pour devenir millionnaire. C'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers, c'est catastrophique.
Ce qui est intéressant là-dedans, c'est de voir la manière dont le patronat et les politiques veulent faire croire que le mouvement de résistance des ouvriers est archaïque. Ce qui veut dire que c'est complètement fou. Défendre ses droits, ça serait, au XXIe siècle, archaïque. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Merci, Patrick, pour ton intervention. Voilà, il pose une question, notre ami Patrick, notre régisseur préféré. Que penses-tu de cette remarque-là ?
Moi, ce que je pense que tu disais, ça m'a fait venir à l'esprit. J'ai vu, il n'y a pas longtemps, un film remarquable, parce que tourné à l'intérieur du mouvement syndical, c'était la... Le film « Comme des lions » qui retrace la grève pendant 2 ans hein, des militants, des ouvriers, d'Aulnay, Peugeot. Mmh. Et c'est très intéressant parce qu'ils ont mené une bataille formidable, démocratique. Ils ont bâti un comité de grève avec des délégués élus. Toutes les décisions étaient prises ensemble. Ils se sont battus. Ils se sont bien battus. Peugeot voulait fermer 3000 emplois d'un coup à l'usine d'Aulnay. Ils se sont battus, ils n'ont pas réussi à obtenir le maintien de l'usine, mais ils ont réussi à avoir beaucoup plus que ce que Peugeot voulait leur donner au départ. Mais ce qui est intéressant, par exemple, c'est qu'à un moment donné, ils ont rencontré au ministère du Travail les responsables, notamment l'inamovible directeur du Travail, Combrexelle. Monsieur Combrexelle, qu'on connaît bien pour la loi Travail, puisque c'est lui qui a été un des initiateurs avec Badinter d'un rapport qui a permis l'élaboration de cette loi de démolition du Code du Travail. Et à un moment, il y a un délégué qui lui dit « Mais vous, sur la table, vous avez le Code du Travail. Ce qui nous importe, là, c'est l'article 242. On dirait que vous avez déchiré la page. Hein. » Et évidemment, Combrexelle, il ne savait plus où se mettre. Bon, moi, je pense que le peuple est capable de s'organiser, de combattre. Et il le prouve. Même si, à certains moments, il ne gagne pas, mais l'organisation, le degré d'organisation qu'il a, le fait qu'aujourd'hui, il y ait une unité des organisations ouvrières qui veulent se battre contre le Code du travail, de la majorité, c'est positif et ça permettra qu'on aille beaucoup plus loin.
C'est clair que tu parlais des gens d'Aulnay, du site d'Aulnay, et les décisions prises en commun. Il est évident que ça les énerve. Eux, ils prennent des décisions à 3 ou 4 et les imposent à tout le monde. C'est pour ça que ça les énerve. C'est vrai que toutes les grèves, même si à un moment donné, on n'aboutit pas exactement à ce que l'on veut, ce sont des pierres qui permettent d'aller plus loin la fois d'après. Ce sont des pierres qui permettent de réfléchir, de construire, de regarder là où on a pu se tromper. Et il faut avouer qu'avec la pression qu'ont les travailleurs, je veux dire, une grève, c'est quelque chose qui coûte cher. Il n'y a que les imbéciles qui s'imaginent que les grévistes sont payés. Il n'y a que ces imbéciles-là qui disent « gna 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 ». C'est une grève, c'est se défendre et c'est l'ultime action que tu vas faire après des négociations, après des propositions. C'est-à-dire, tu te lèves pas un matin en disant, tiens, chouette, on va faire grève. Jamais de la vie. Ceux qui nous disent cela ne sont pas des travailleurs, n'est-ce pas? Donc, je crois que on peut résumer cette situation pour faire passer des lois antidémocratiques contre le peuple. Le gouvernement a plusieurs cartes dans son jeu. Il se sert du terrorisme. Parce que ça va permettre d'empêcher les manifestations, ça va permettre de manipuler le peuple, et la violence utilisée contre le peuple est une arme de plus, je crois. Je pense que il faudrait que les émissions des Bulles dans le Bocal durent 2 ou 3 jours, mais là on peut pas, parce que Patrick il dit qu'il faut s'arrêter. Je crois qu'il faut juste dire que cette phrase de Benjamin Franklin, un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité, ne mérite ni l'une ni l'autre, et finit par perdre les deux. Il faudra réfléchir, chers amis, sur cette phrase de Franklin, mais nous, on va se quitter en vous disant ce qui nous tient à cœur et que nous aimons nous répéter entre nous.
Ni Dieu, ni maître, abat la calotte, et vive la sociale.
Chers amis auditeurs, à la prochaine émission.